Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude, donc l'émission Méli-Mélo, dans laquelle on se mélange intellectuellement en tout bien, tout honneur, quoique évidemment tout est toujours possible puisque c'est l'été. Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, comment on dit ça ?
Formidable.
Olivier Assayas, vous êtes un de nos grands cinéastes, enfin à mon goût, c'est toujours très subjectif. Or, vous venez nous voir non pour un film, mais pour un livre dans lequel vous partez à la rencontre de votre père, Un voyage Marseille-Rio 1941, paru chez Stock. Bonjour Olivier Assayas.
Bonjour.
Arnaud Robotini, The Arnaud Robotini, vous êtes une des figures de la musique électronique et vous vous apprêtez à jouer la musique du film 120 battements par minute de Robin Campillo à Avignon, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, attention les yeux, le mardi 23 juillet. Bonjour Arnaud Robotini.
Bonjour.
Alors vous l'aurez saisi, donc Arnaud Robotini met en musique le monde moderne, tandis qu'Olivier Assayas part à la rencontre de ses origines. Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord ?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller, sur France Inter.
Olivier Assayas, vous avez déjà rencontré Arnaud Robotini ?
Non, c'est la première fois que j'ai le plaisir de le rencontrer,
oui,
vous, grâce à vous.
Oui, pour vous, ça représente quoi Arnaud Robotini ?
Bah, d'abord, j'ai beaucoup aimé son travail avec Robin Campillo, et ça représente un rapport aussi de très fécond entre la musique électronique et le cinéma, qui est quelque chose à quoi je crois beaucoup et depuis longtemps.
Et vous Arnaud, vous le connaissiez Olivier Assayas, non ?
Ah, bien sûr, j'ai vu pas mal de ses films, ouais. C'est quand même une figure du cinéma français, enfin voilà, un réalisateur, un auteur important.
Alors là, vous allez découvrir quelque chose, Arnaud, sur Olivier, c'est que dans votre livre Un voyage, alors je ne sais pas comment le dire, mais je dirais qu'il est co-réalisé avec Adrien Bosque.
Ah bah il est co-réalisé avec plusieurs personnes. Il est co-réalisé avec mon père Jacques Rémy et avec Germaine Krull, qui est une des grandes photographes de la modernité et un peu une figure de mon enfance. C'est un film où il y a une sorte d'étrange dialogue qui se fait à la fois entre le présent et le présent, c'est-à-dire entre Adrien Bosque, auteur du roman Capitaine, qui met en fiction, en docudrama, on dirait en termes de cinéma, l'histoire de cette traversée en 1941 entre Marseille et la Martinique.
On va tout raconter, oui, c'est ça.
Et puis, il y a un dialogue entre le passé et le passé, c'est-à-dire entre mon père qui écrivait et Germaine Krull qui prenait des photos durant ce voyage en 1941. Et puis, il y a le rapport de Adrien et de moi-même avec le passé.
Alors, on prend tout dans l'ordre. C'est un livre. D'abord, ce n'est pas un film. Vous avez dit c'est un film, mais c'est un livre, Olivier. C'est un livre qui est une sorte de recueil d'archives, on pourrait dire, à la recherche d'une quête que vous faites, à la recherche de votre père. Et vous racontez notamment un voyage décisif qu'il a fait en 1941 pour fuir la France de Vichy. Peut-être on peut commencer par expliquez-nous en deux mots, Olivier, qui était Jacques Rémy, dont le véritable nom était Raymond Assayas.
Oui, alors Jacques Rémy, alias Raymond Assayas, était
un scénariste.
À cette époque, il était surtout assistant.
Ouais,
il était un jeune homme, il avait 29 ans, prometteur, qui avait commencé dans le cinéma avec Max Ophüls sur La Signora di Tutti, que Max Ophüls a tourné à Rome, puisque mon père a grandi à Milan. Ce sont des juifs français, mais installés à Milan à cette époque-là. Il a suivi Max Ophüls en 1936 à Paris, il a suivi l'équipe, disons, de Max Ophüls, et donc il a fait sa carrière d'assistant dans une orbite qui était celle du milieu anti-nazi, d'allemand anti-nazi, qui accompagnait Ophüls. Et évidemment, il a été mobilisé en 39, ça a été la fin de sa carrière d'assistant en France. Une fois démobilisé en 40, il a commencé à se dire que ça sentait le roussi et qu'il valait mieux partir. Donc il s'est retrouvé dans une situation qui était assez commune à ce moment-là. Simplement, lui a eu la chance de pouvoir trouver un passage de Marseille à la Martinique, ce qui n'a pas été donné à tout le monde.
Et le terminus étant la ville de Rio.
Le terminus étant en l'occurrence Buenos Aires, c'est-à-dire que son épouse, sa première femme, pas ma mère, était italo-argentine et elle avait dû partir par un bateau antérieur, précédent, et donc l'attendait pour... Et il a refait sa vie à Buenos Aires, où il a été alternativement directeur de studio, réalisateur de films et a rejoint la diplomatie de la France libre.
Alors j'aimerais qu'on écoute la voix de Jacques Rémy racontant en avril 1958 le film La chatte d'Henri de Coin, dont il a écrit le scénario.
Dans les grandes lignes, c'est une histoire d'amour. On fait toujours et on fait facilement des histoires d'amour. Mais celle-ci est particulièrement difficile parce que ce sont deux êtres qui s'aiment dans des circonstances où tout devrait les séparer. C'est une Française, il est allemand. Ils se sont rencontrés à un moment où aucun des deux ne savait exactement qui était l'autre. Et quand ils s'apercevront qui est leur partenaire, ils ne pourront plus se séparer. Et fatalement, ils essayeront de s'aimer malgré tout ce qui se passe autour d'eux, mais la tempête finira par les broyer parce qu'on ne va pas contre l'histoire, on ne va pas contre la guerre, on ne va pas contre les événements, on ne joue pas seul quand le monde entier est en conflit.
Olivier Assayas, quand on fait des films, on est toujours influencé. Est-ce que votre père, dont on vient d'entendre la voix, qui raconte plutôt une comédie, qui raconte de façon très joyeuse la trame complexe qu'il a échafaudée pour Henri de Coin, est-ce que votre père vous a influencé ?
Mon père m'a influencé dans le sens où il m'a appris à écrire, hein. C'est-à-dire que mon père était quand j'étais très jeune homme. Mon père est mort en 81, c'est-à-dire il y a fort longtemps. Et quand j'étais tout jeune homme, il était atteint de la maladie de Parkinson, ça n'allait pas du tout, et il faisait plus de cinéma. Il écrivait des séries pour la télévision. En l'occurrence, il adaptait Les Maigret de Georges Simenon. Et il y a un moment donné où la main tremblait trop pour qu'il puisse continuer à écrire, et donc moi je lui ai servi de secrétaire, d'assistant, et donc à un âge où en général on est étudiant, on débute tout juste dans le cinéma, j'ai appris la technique de l'écriture de scénario pour aussitôt l'oublier, un peu comme un peintre qui apprendrait à dessiner et qui ensuite l'oublierait pour faire des choses plus abstraites, ce qui a été mon cas. Mais donc mon père m'a repassé à une sorte de savoir technique. La question de savoir si j'étais influencé par mon père, évidemment j'étais influencé par mon père, mais j'ai l'impression que j'étais plus influencé par mon père du point de vue de son amour pour la littérature, son amour pour la peinture, à la fois classique et moderne, que pour ce qui était du cinéma, qu'il considérait comme un artisanat. Mon père considérait que ce qu'il faisait dans le cinéma, c'était raconter des histoires, et que ça valait ce que ça valait, mais enfin, on ne parlait pas de la même chose.
Ce n'était pas un homme d'image ?
Bah, il a réalisé deux films dont lui-même n'était pas content, et donc pour lui, son rapport à l'image, je crois, était beaucoup plus fort avec la peinture.
Alors vous, Arnaud Robotini, le cinéma que vous aimez, moi j'ai lu que c'était plutôt Clint Eastwood.
Oui, bah entre autres, après ça c'est vraiment, enfin c'est pas très original, enfin pas tellement Clint Eastwood, c'est plutôt les westerns italiens, Sergio Leone.
Ah, vous aimez les westerns italiens ?
Bah oui.
Et le western spaghetti.
Voilà, oui.
Et donc, vous n'êtes pas tellement fan du cinéma d'Olivier Assayas, parce que c'est assez éloigné du western spaghetti, quand même, non?
Oui, j'aime aussi le cinéma français. Enfin, voilà, c'est qu'on me pose souvent la question. Et puis, comme il y a une forte relation avec la musique, voilà, c'est des réponses qui arrivent assez facilement.
Et puis, si je peux me permettre de répondre à Arnaud, je pense qu'on a beaucoup de goûts en commun. Le western italien m'intéresse sans doute moins que lui, dans le sens où moi, ce type de cristallisation s'est fait autour du cinéma d'arts martiaux hongkongais, je veux dire que j'ai toujours trouvé plus excitant,
Bruce Lee,
même si j'aime etc. Mais on peut certainement se retrouver sur Clint Eastwood, parce que je crois qu'à l'époque, j'ai dû être l'un des tout premiers à écrire sur son cinéma, à une époque où c'était extrêmement mal vu. On parle des années, de la fin des années 70. Hein. Moi, je me souviens que c'est un goût que je partageais à l'époque avec Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet dans l'Auguste Revue de Métal Hurlant. Et j'ai trimballé, quand j'ai commencé à écrire au Cahier du Cinéma, revue sérieuse, j'ai amené dans mes bagages un cinéaste qui était extrêmement mal vu. Et donc, c'est sûr que quand Clint Eastwood, à l'époque où il faisait des films avec un chimpanzé, genre Doux Durédingue, etc., ça n'avait pas la même aura. Comment dire, de prestige que ça a acquis aujourd'hui.
Et puis Clint Eastwood, c'était quand même politiquement, ça l'est toujours d'ailleurs, c'est à la fois un grand créateur et quelqu'un qui est totalement politiquement incorrect.
Mais ça, j'aime assez ce genre de personnage en général. Après, pour le cinéma, j'ai voué toujours d'ailleurs un culte à Pasolini, qui a été un de mes premiers chocs cinématographiques quand je me suis intéressé vraiment au cinéma d'auteur. Et voilà.
Et c'est d'ailleurs ce qui vous rapproche, je trouve, tous les deux, c'est le fait que vous êtes deux individualistes. C'est-à-dire que vous créez sans vous soucier des modes, des tendances, de ce qu'on appelle la doxa, vous savez, les idées reçues du moment. C'est un peu le cas, Olivier Assayas. Vous êtes assez critique par rapport à tout ce qu'on raconte. L'actualité, vous la commentez pas en général.
Bah, je pense que c'est pas le rôle du cinéma. Je pense que l'art, quel qu'il soit, c'est une démarche qui en effet est singulière et solitaire, parce que on peut pas s'adapter à une demande. On fait ce qu'on peut faire. Moi, j'ai toujours eu le sentiment, non pas que je faisais ce qu'il fallait que je fasse, parce que j'ai même plutôt eu tendance à faire toujours ce qu'il ne fallait pas que je fasse, et ça m'a toujours plus amusé de faire ce qu'il ne fallait pas que je fasse que ce qu'on attendait de moi. Mais d'une certaine façon, j'aurais été bien incapable de faire ce qu'on attendait de moi. J'ai toujours un peu l'impression, chacun de mes films, de me retrouver dos au mur, et c'est le seul truc, il y a un truc auquel j'arrive à me raccrocher, je le fais comme je peux, et puis advienne que pourra. Mais de ce point de vue-là, quand on est dans n'importe quel art, on est porté par une vision et en ayant foi en elle et en essayant de la poursuivre aussi loin qu'on peut.
Un titre pour vous, Olivier, la jeune chanteuse Céleste dans Father's Son, le fils du père, sur France Inter.
Bannière sur le parvis de Notre-Dame. C'est l'accueil réservé ce matin aux fidèles par les militants de l'association ACT UP.
Absolument scandaleux.
C'est scandaleux, vraiment scandaleux, parce que si même dans une église on ne peut plus être tranquille, alors...
Vous savez ce que ces gens réclament ?
Je m'en fous complètement. Enfin, je m'en fous complètement.
Melton Farm, assassin !
Mais c'est fou, mais c'est quoi ?
Mais ça va pas, non ?
Non, ça va pas du tout. Ça va pas quand on est malade et on prend de la ZT toutes les 4 heures. Quand on a de la diarrhée toutes les nuits et des gens comme vous prennent leur temps et nous laissent crever.
On peut peut-être s'asseoir à table et parler calmement.
Nous, on n'a pas le temps,
la violence.
On n'a pas le temps,
la violence ne résoudra rien.
On est en train de crever, vous entendez ça ?
Notre réalisatrice Juliette Médevielle a mélangé en fait des documents d'actualité de l'époque du mouvement ACT UP et puis un extrait du film 120 battements par minute de Robin Campillo. Arnaud Robotini, le mouvement ACT UP, c'était quelque chose d'absolument incroyable parce que d'une part, c'est un mouvement qui a révolutionné l'agit-prop, l'agitation, tout a changé à partir d'ACT UP et surtout, c'était des gens qui jouaient leur vie dans ces actions.
Oui, bah on voit bien dans le film, mais effectivement, c'est des gens qui sont touchés par la maladie, donc ils sont et souvent une relation très proche avec la mort, alors qu'ils n'ont pas du tout l'âge d'avoir ce rapport-là. Et souvent, c'est des gens d'une vingtaine d'années, et effectivement, ils jouent leur vie dans ce combat et en essayant de faire avancer la science le plus vite possible.
Alors, je suis peut-être fou, mais quand j'ai vu 120 battements par minute de Robin Campillo, je me suis dit, on dirait un film d'Olivier Assayas.
Ouais, je suis très flatté parce que j'aime beaucoup le film, donc je prends.
Mais vous trouvez pas qu'il y a des ressemblances peut-être formelles par le fait que vous aussi, vous avez beaucoup interrogé toute cette culture qui est celle d'ACT UP au fond?
Bah, disons que c'est pas tout à fait mon époque. Moi, j'ai vécu, disons d'une façon, la période de l'apparition du SIDA à travers surtout la disparition d'amis chers,
comme tout le monde.
Et comme chacun d'entre nous. Et donc, je crois raconter quelque chose qui a à voir avec cette disparition, sans évoquer d'ailleurs le SIDA, quand j'ai fait fin août début septembre, il y a très longtemps, mais qui était un film d'une nature très 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 différente. Mais c'est vrai que ce à quoi je suis très sensible dans le travail de Robin Campillo en général et dans 120 battements en particulier, c'est une manière de trouver à l'intérieur du réel une énergie, une dynamique, une puissance qui est aussi celle de la fiction et du cinéma. Et d'une certaine façon, de se nourrir peut-être de l'énergie de la société ou des contradictions de la société pour créer une forme cinématographique contemporaine.
Arnaud, vous aviez conscience de ce qu'était ACT UP quand on vous a demandé de faire la bande-son du film ?
Oui, c'était assez terrible. Enfin, parce qu'en fait, Robin avait ce projet de film depuis assez longtemps, quand on a fait notre première collaboration sur un long-métrage, enfin, sur un de ses longs-métrages, Eastern Boys, donc le film précédent. Il m'avait déjà parlé de l'idée du film sur ACT UP et tout ça, et puis qu'il voulait que ça soit une sorte d'hommage aussi à la musique de cette époque-là. Et parce qu'il faut recontextualiser, la house et la techno à l'époque, c'était vraiment une musique très très ghetto, très gay.
C'était la culture gay.
Ouais, je me souviens, pour découvrir cette musique-là, on allait dans des clubs, mais en n'étant pas forcément gay, on allait dans des clubs gays pour écouter de la house. C'était le seul moyen d'en écouter, hors les rêves. Donc voilà. Et
on peut dire que les homosexuels ont révolutionné la musique, d'une certaine façon, en tout cas toute cette musique de danse.
Oui, bah puis pas que, tout le glam rock, c'est une responsabilité des managers anglais gays d'avoir pris des jeunes prolos anglais et les avoir quasiment travestis. Faut pas oublier toute cette dimension-là aussi.
Alors Arnaud, c'était très émouvant de vous voir au César.
Je veux dire que j'ai énormément de chance et un honneur d'avoir été choisi par Romain Campillo pour faire la musique de ses deux derniers films. Et je voudrais avoir une pensée pour... la musique de 120 battements par minute a une profondeur, c'est qu'elle est la voix de ceux qui sont morts, qui ont perdu des proches, qui sont battus, qu'on n'a pas voulu entendre. Et je dédie ce prix à ces héros oubliés d'hier et d'aujourd'hui. ACT UP existe toujours et le SIDA n'est pas qu'un film. Merci.
Olivier, ça vous est déjà arrivé de pleurer au cinéma ?
De pleurer au cinéma, oui, bien sûr, ça m'est arrivé de pleurer au cinéma, comme à beaucoup de gens, j'espère.
Quel est le film qui vous a le plus ému ? Qui vous a le plus dérangé, peut-être ?
Ça, c'est très difficile de donner une bonne réponse à ça, parce que, si vous voulez, j'ai toujours un peu l'impression que les larmes, hein, l'aspect physique des larmes, ça vient quand à un moment donné on voit un film dans une certaine humeur, dans une certaine mélancolie aussi peut-être, et où tout d'un coup un film vient appuyer à un endroit où tout d'un coup il y a quelque chose qui ressort.
Par exemple,
en vous.
Personne n'a pu résister à Sur la route de Madison avec justement Clint Eastwood.
Oui, mais j'ai adoré le film, mais ça m'a pas. Ça,
vous n'avez pas pleuré, vous.
Je n'ai pas pleuré à la route de Madison, mais j'ai pleuré à d'autres films complètement improbables, à des endroits complètement improbables, que je serais aujourd'hui incapable de vous citer parce que ça s'est pas inscrit en tant que tel. Mais je peux être. Moi, je veux dire une chose bête, hein, d'une certaine façon. Les souvenirs qui me marquent le plus de larmes au cinéma, ce sont quelquefois mes propre film, c'est-à-dire dans le sens, ça m'est arrivé en visionnant pour la première fois mes films, de littéralement avoir à retenir des larmes à la fin, non pas parce que j'ai été ému par le film, mais par le simple fait d'être arrivé au bout, d'avoir tirer, porter quelque chose et que enfin de l'avoir amené à bon port et que comme s'il y avait une sorte de relâchement d'énergie qui faisait que tout d'un coup j'étais débordé par juste l'émotion d'être au bout du chemin.
Vous avez dit que votre cinéma vous permettait de traquer des fantômes. Ce que vous faites dans Un voyage Marseille-Rio 1941, vous traquez un fantôme comme si vous étiez toujours à la recherche de ces êtres qui sont, vous savez, ces êtres qui nous entourent et qu'on ne voit pas et qu'on imagine.
Je crois qu'on est tous entourés par des fantômes. Je crois qu'on a tous nos fantômes et qu'on vit constamment avec des fantômes, des vivants, des morts, certains qu'on a connus, d'autres qu'on n'a pas connus. Moi, il se trouve que j'ai grandi dans une maison fantomatique, dans le sens où c'était où on vivait à la campagne avec mon père et mon frère Mishka, notre nounou hongroise. On parlait hongrois à la maison, pas avec mon père qui le comprenait pas, parce que c'était la langue de notre mère, mais enfin néanmoins c'était très bizarre, et cette maison était remplie de souvenirs d'une autre vie de mon père qui avait passé quand même les années de guerre en Amérique latine, on avait conservé un rapport à la culture d'Amérique latine, beaucoup d'amis mexicains, argentins, etc. Et puis mon père voyageait beaucoup, il a beaucoup voyagé en Asie, il en avait rapporté toutes sortes de souvenirs. Donc on vivait dans cette maison qui était peuplée de divinités asiatiques, de photos, de souvenirs de la France libre, de photos illisibles, incompréhensibles en sépia. C'est très difficile de ne pas transformer tout ça en fantôme.
Arnaud Robotini, en un mot, qui sont les fantômes qui vous peuplent ?
Bah là, en l'occurrence, par rapport à 120 battements par minute, c'était un peu tous les fantômes de tous les producteurs qui sont morts du sida, et tout l'héritage, en fait, de cette musique que j'ai vécu à l'époque, que j'ai vu naître, et de rendre hommage en fait à tous les gens qui ont participé, et sans la dévoyer, et parce qu'elle maintenant c'est une musique qu'on entend un peu partout dans les supermarchés, mais il y avait quelque chose d'assez identitaire. Je parle souvent de l'étendard des minorités LGBT, enfin plein de choses comme ça. Donc c'était, il y avait vraiment tous ces fantômes, un peu des gens qu'on a pu connaître qui ont disparu de cette maladie.
Alors on écoute donc le titre phare du film, hein, Small Town Boy de Bronski Beat avec Jimmy Somerville, réinventé donc par vous, Arnaud Robotini. You leave it. Un titre fantastique, écrit originellement en 1984, Small Town Boy, Bronski Beat, remixé par Arnaud Robotini.
Christophe Bourseiller, Estivalitude, sur France Inter.
Arnaud Robotini, donc vous allez jouer la musique du film 120 battements par minute avec Small Town Boy dans la grande cour du Palais des Papes. Alors ça, je trouve ça quand même très brillant. Vous investissez la culture officielle le 23 juillet et vous jouez avec le Don Van Club. C'est quoi le Don Van Club?
Bah alors en fait, moi j'ai un problème d'étiquette. Souvent, comme je change un peu, enfin souvent de style.
Zenda Vesta et d'autres.
Blackstrobe. Ça a failli s'appeler Zenda Vesta. D'ailleurs, peut-être que le prochain album, ça sera un Zenda Vesta. Je suis en train de réfléchir à tout ça encore, mais voilà. Donc j'ai besoin un peu de baliser, de que les choses soient claires. Je fais un live tout seul où je suis seul sur scène avec des machines à des synthés analo qui est très électro techno. Donc j'avais besoin de préciser que voilà, ça allait être différent.
Mais donc c'est un orchestre classique, c'est ça?
C'est des gens avec qui je travaille pour enregistrer mes BO qui sont pour la plupart enregistrés sur le disque. Voilà. Et donc là, je leur ai donné un nom puisque ils prenaient une existence réel sur scène, hein. Enfin, donc voilà, et donc j'ai réfléchi plein d'idées, et puis je suis revenu un peu à mes lubies de jeunesse et à Captain Beefheart.
Bah bien sûr, et Don Van Vliet, c'était le véritable nom de Captain du Beefheart. Grand Captain Beefheart, ouais. Qu'on est trois autour de cette table à France Inter à aimer, en tout cas, Olivier Assayas, moi et vous, Arnaud Robotini. Alors Arnaud, je vous ai demandé le son qui vous résume, et là, je m'attendais à tout sauf à ce qu'on va entendre dans quelques secondes. Vous allez nous expliquer ce que c'est après.
Je voterai la censure. En quittant le gouvernement il y a un an, je n'autorise personne à m'applaudir. En quittant le gouvernement il y a un an, j'ai proclamé à mes dépens mes refus et mes craintes. Depuis, j'ai soutenu le gouvernement et j'ai tenté de dire les problèmes qui nous assaillent.
Nous sommes le 22 mai 1968. Et c'est qui, Arnaud Robotini?
C'est Edgar Pisani.
Edgar Pisani, le gaulliste de gauche.
Le gaulliste de gauche qui annonce sa démission. Enfin, à la fois qu'il va voter la censure, donc contre le gouvernement dont il était issu, il a démissionné du gouvernement, mais en restant proche du gouvernement de l'époque de Pompidou.
Ouais.
Et là, il vote la censure et il démissionne puisqu'il estime que il trahit son propre mandat puisqu'il était élu avec une étiquette politique et que là, il se met en opposition par rapport à cette étiquette politique qui, à l'époque, gouvernait par ordonnance. C'était un peu ça le problème.
Qu'est-ce que vient faire Edgar Pisani dans la vie d'Arnaud Robotini?
Et ben, en fait, c'est comme ça, rien, mais c'était un choc quand j'ai entendu ce discours, sûrement sur une émission de France Inter, je sais plus laquelle.
Ce que vous aimez bien, c'est le silence, le côté ne m'applaudissez pas.
Je trouve que c'est
le malaise, en fait.
Moi, je trouve que le discours est d'une poésie incroyable. Je m'en suis inspiré pour un texte, d'ailleurs. Cette formule, je ne vous autorise pas à m'applaudir, se trouve d'une force. Et j'ai proclamé à mes dépens. Je trouve que c'est des formules et la façon dont il le dit, on peut vraiment se les approprier et pour des actions qu'on a pu faire dans la vie, dans les choses comme ça. Je trouve ça d'une force incroyable. Et puis, après, quand on voit le parcours d'Edgar Pisani, de ce que ça représente, cette diction, ce son, je trouve ça absolument...
Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Assayas? Edgar Pisani, ça vous parle?
Edgar Pisani est un souvenir lointain
pour moi. Oui, pour beaucoup de monde.
Et je suis peu familier de son parcours politique, donc je serais bien normal de commenter.
Partisan de René Capitan.
Mais par contre, j'entends très bien ce que dit Arnaud sur la poésie et sur la poésie des mots, sur la poésie de ces mots qui viennent de loin et de la force de résonance qu'ils peuvent avoir.
C'est en entendant ce discours, je pense que c'était sur Affaires Sensibles ou une émission d'Inter, comme ça. Et j'étais absolument foudroyé par ce discours. Quand on le contextualise, là, il y a un côté un peu chevaleresque, enfin, un peu
oui, passé. Il a du panache.
Ouais, voilà.
En gros, il quitte le gouvernement pour se rallier aux émeutiers, d'une certaine façon. Ouais. Hein. Il y a une forme de courage politique dans cette forme de démission en plein mandat de sa part. Alors, Olivier Assayas, alors là, c'est mon choix. Hein. Je l'assume. Et vous allez me dire, le son qui vous résume, écoutez bien, pour moi, c'est ça.
Kansas, Shuddering at Lust. person offering in Kansas. Angry telephone calls to the university. Police dumbfounded, leaning on their radio carpet, while poets chant to Allah in the roadhouse showboat.
Alors c'est un extrait, bien sûr, de votre film L'eau froide, qui date de 1994, et c'est un poème de Ginsberg, d'Allen Ginsberg, Wichita Vortex Supra.
Sutra. Sutra, qui est dans le recueil Planet News. Je crois que si je suis arrivé une fois dans ma vie à saisir quelque chose de mon autobiographie et de qui de l'adolescent que j'étais, c'est véritablement ce moment-là. C'était pour moi peut-être une manière de fuir des années 70 qui étaient asphyxiantes, y compris politiquement d'ailleurs. Et je trouvais une sorte de lumière à la fois dans la musique, dans le rock anglais de cette époque-là, qui, y compris le rock, parce que c'était les années pré-punk, hein, tout ça, etc. C'est donc dans le rock progressif anglais, dans mes déambulations dans Londres et dans la découverte de la poésie de la Beat Generation. Je parlais pas encore bien anglais, mais pour moi, découvrir les textes de d'Allen Ginsberg, ceux de Lawrence Ferlinghetti, ceux de Grégory Corso, William Burroughs, c'est des choses que je ramenais de Londres en tremblant, en ayant ça dans les mains, et je me souviens de l'émotion que provoquait en moi la poésie de Ginsberg. Et en même temps, c'est tellement bizarre, quoi. C'est tellement bizarre, parce que, évidemment, le son que vous avez choisi est associé à une image, c'est-à-dire d'un jeune garçon en caban, train de traverser un bois en poussant son vélo.
Et son père vient de lui dire, tu n'as aucune culture. Oui. Et à ce moment-là, nous découvrons, les spectateurs, qu'en fait, il a une immense culture, mais c'est une autre culture.
C'est une autre culture, ce qu'on appelait d'ailleurs la contre-culture. Mais surtout, c'est le fait c'est la façon dont, à cet âge-là, on est sensible au noyau des choses et qui est toujours poétique. Et les mots de Ginsberg, venus de tellement loin, dans une langue que je parlais mal, etc., résonnaient de façon tellement profonde en moi. Enfin, pour moi, c'était... Et donc, la façon dont j'ai reproduit mon personnage récite comme une sorte de mantra dont il ne comprend que la moitié, quelque chose, parce que ces mots vibrent en lui, etc., c'est quelque chose qui a à voir avec un rapport à l'art initial d'où tout le reste pour moi découle.
Alors je crois que vous partagez ça, Arnaud Robotini et Olivier Assayas, c'est cet attachement à cette autre culture, cette contre-culture rock, cette contre-culture underground, toute cette histoire aujourd'hui si complexe et si passionnante. Alors que pensez-vous de ça ?
France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseiller.
Bye.
L'épée Dreams, l'épée, je vous l'explique, hein. L'épée est une sorte de super groupe qui inclut Emmanuel Seigné, Anton Newcombe de Brian Johnstone Massacre, sans oublier Lionel et Marie des Liminanas. C'est une programmation néo-rock de Muriel Pérez.
Vous avez dit,
vous avez dit,
mais vous m'avez rien dit.
Parce que c'est faux.
C'est vrai. Bah évidemment que c'est vrai.
C'est violent, Cannes. Si on va à Berlin, ça se passe, c'est plus simple. Si on va à Venise, c'est plus simple aussi. Cannes, c'est un lieu terrible, c'est un lieu violent. Et donc, quand on y est, on est blindé.
Olivier Assayas, vous n'allez pas faire plaisir au syndicat d'initiative de Cannes, là, hein. Pourquoi vous avez dit ça?
J'ai dit ça parce que c'est parfaitement vrai.
Le festival de Cannes, c'est dur, c'est une épreuve.
Disons que c'est à la fois un lieu fascinant, c'est un lieu où chaque réalisateur qui fait un film espère que son film sera montré parce qu'on y trouve le meilleur public au monde, ou en tout cas où s'y retrouve le meilleur du cinéma mondial, en tout cas ceux qui ont les moyens de se payer des chambres dans un contexte relativement onéreux.
Oui, c'est
onéreux,
quand même pas
néanmoins.
Le public, c'est un voilà. Public très particulier.
Non, mais enfin disons, il y a une forme de cinéma, en tout cas il y a une cinéphilie qui fait ce pèlerinage-là chaque année, et j'espère pour de très bonnes raisons, mais la veille du jour où votre film est montré, personne ne l'a vu. Le lendemain, tout le monde l'a vu. Et c'est le seul festival où tout se joue sur un coup de dé. Si vous montrez un film, que ce soit à Berlin, à Venise, etc., c'est plus dilué, tout le monde n'est pas là.
Et il y avait eu l'accueil un peu bronca, après vous avez récupéré le public de Personal Shopper.
Personal Shopper, c'est un de mes films qui a été le mieux reçu au résultat. J'ai eu le prix de la mise en scène à Cannes, donc tout va bien.
Mais ça a secoué à la projection,
comme ça avait secoué quand j'avais fait Demon Lover, Demon Lover était d'une certaine bien pire. Bon, donc d'une certaine façon, j'ai un peu l'habitude de traverser ce genre de truc. C'est pour ça que je dis que je suis blindé. Mais c'est difficile. Personne, je crois, n'est capable de dire que Cannes est une expérience plaisante ou pacifiante. J'ai l'habitude de dire que on débarque, enfin pour dans mon cas à la gare de Cannes, et on est avalé par cette machine. On est dans une sorte de tambour de machine à laver pendant 3 jours, et on est recraché sans avoir compris ce qui s'était passé.
On se souvient de l'exemple de Wim Wenders quittant Cannes après avoir reçu la Palme d'Or et partant faire du stop pour justement essayer de se nettoyer de ce qu'il avait l'air de considérer comme un manteau un peu de honte, presque. Arnaud Robotini, vous avez déjà fait face à des publics difficiles, comme le public de Cannes? Il y a bien dû y avoir quelquefois des concerts houleux.
Non, j'ai pas trop de souvenirs de si au début un peu, je peux avoir une attitude. Moi, j'ai eu une attitude un peu virulente sur scène.
Ah bah oui, vous êtes un peu punk, vous.
Oui, j'ai pu même vous chercher un peu, mais c'est il y a longtemps, un peu l'affrontement avec le public. Je me suis un peu pacifié depuis.
Quand même, sur le cinéma, vous n'êtes pas si pacifique, parce que j'ai lu, alors vous savez, on lit plein d'articles pour préparer une émission, et j'ai lu, c'est vrai qu'on a toujours envie de gifler Tom Cruise. Qu'est-ce qui vous a fait, Tom Cruise?
C'est possible que je me souviens pas, mais c'est possible que j'ai dit ça. Oui, je paye un peu une tête à claque, non? Enfin, c'est gratuit. C'est la violence vraiment gratuite.
C'est quand même un bon comédien.
C'est vrai qu'il y a
Magnolia,
des gens.
Magnolia, il est extraordinaire.
Magnolia, superbe film, j'adore. Mais oui, effectivement, il est extraordinaire dans ce film. Mais il est bien, et on a quand même envie de le gifler dans ce film.
Écoutez, Olivier, vous avez envie de gifler Tom Cruise, vous?
Moi, j'ai envie de gifler personne. J'aime bien Tom Cruise. Pas dans tous les films, mais je trouve que c'est un acteur assez dément.
Vous n'êtes pas quelqu'un de très polémique. Vous avez quand même dit que votre slogan préféré de mai 68, c'était Godard, le plus con des Suisses pro-chinois.
Non, je n'ai pas dit ça.
C'est pas gentil pour Jean-Luc Godard.
Non, j'ai pas dit que c'était mon slogan préféré. Même s'il provient de gens qui sont politiquement mes amis, c'est-à-dire les situationnistes et enragés de mai 68. Et par ailleurs, Godard est sans doute un des cinéastes qui a le plus compté pour moi. J'ai une admiration sans borne pour Godard, le poète, certes, mais pas pour la théorie politique.
Pas pour le militant pro-chinois.
Bon, c'est, et certainement pas pour le militant pro-chinois. Je pense que Godard, intellectuellement, politiquement, a fait un cheminement dont, pour être sympa, je vais dire que j'ai du mal à le comprendre. Mais ça n'empêche pas qu'il soit sans doute le plus grand poète de l'histoire du cinéma et que son œuvre est une sorte de labyrinthe et un objet de fascination aussi pour moi depuis toujours.
Et c'est quelqu'un qui aime mettre des gifles aussi.
Ah bah Godard n'a pas cessé de mettre des gifles. Oui, toute son œuvre n'est qu'une gifle.
Oui, oui, exactement. Et toute son œuvre s'écoute aussi. Le montage son de Godard est fascinant. Enfin, c'est de la musique concrète par moment. C'est superbe.
La bande-son de Godard avait d'ailleurs à un moment certaines bandes-son, mais le film avait été sorti en disque il y a quelques années. Oui, sur le label ECM, je crois.
Je l'ai.
Fred Eicher, on va être précis dans ce qu'on dit. Arnaud Robotini, vous êtes paradoxal parce que vous êtes un grand compositeur de musique populaire. En même temps, vous vous retrouvez dans la grande cour du Palais des Papes. C'est-à-dire, en gros, c'est l'épicentre de la grande culture, pourrait-on dire. Et puis, vous avez travaillé avec des compositeurs d'avant-garde comme Christian Zanesi, compositeur de musique électronique, membre du groupe de recherche musicale. Vous êtes quelqu'un de très particulier. Vous n'avez pas un jour envie d'intégrer le cercle fermé des compositeurs de grande musique ?
Oui et non. C'est-à-dire que je trouve que parfois les compositeurs de grande musique se coupent un peu du social. Et que la musique contemporaine, que je peux admirer, que je peux adorer, et se coupe complètement du social et a un langage qui est tellement élitiste que voilà. Il peut me parler, mais c'est pas le langage que j'ai envie d'utiliser. Ouais. Et puis moi-même, je suis vraiment issu de la culture de la musique industrielle. Je crois que ça m'a de groupes comme North with Wound,
Stephen Stapleton, on peut citer.
Voilà. Ouais. Et qui sont en fait des gens qui ont.
Je pensais pas citer Stephen Stapleton à 9h54 sur France Inter. J'en suis ravi. Publiquement.
Voilà. Et voilà, c'est des gens qui ont fait une sorte de musique savante issue d'une culture et d'un système économique populaire qui m'intéresse. C'est-à-dire que c'est des gens sans subvention, en utilisant finalement le système capitaliste, qui arrive à promouvoir une musique ultra avant-gardiste. Et ça, ça m'a toujours intéressé.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors, question brutale, Arnaud Robotini. Quel est votre plus incroyable souvenir de vacances ? Je vous rappelle qu'on est quand même au cœur de l'été. Hein.
Oui, je me suis débarrassé de cette question gênante en disant que voilà, c'était un peu mes premières vacances sans mes parents, adolescents. C'était l'époque où vous faisiez déjà de la radio, à Radio 7.
Donc vous m'écoutiez à Radio 7.
À Radio 7.
Voilà. Bah, écoutez, c'est formidable. Voilà. Ça se passait où, ces vacances?
C'était vers Tarascon. Voilà. On était en camping avec un ami. Alors après, il y avait toute la découverte qu'on peut faire quand on goûte à la liberté avec tous les moments d'égarement et les moments de joie. Et voilà, je garde un souvenir.
Alors, Olivier, en un mot, puisqu'il nous reste une minute, est-ce que vous avez un souvenir de vacances particulier ? Vous n'êtes pas du genre à partir en vacances, vous ?
Vous travaillez tout le temps. J'ai besoin de vacances comme tout le monde. Il y a eu, en effet, en y réfléchissant, un été qui a compté, qui est assez loin maintenant. Je pense une année où je me suis retrouvé tout seul à Formentera dans une petite maison sans électricité, sans eau. Tout seul, je pense que ça ne m'était sans doute jamais arrivé en plein été, et j'étais plus sûr de comment faire des films, de par où prendre le truc, etc. Et j'ai commencé à écrire, et j'ai écrit un essai que j'avais ni prévu ni fait le plan consacré à Kenneth Anger.
Scorpio Rising,
et j'ai passé en fait 3 semaines, 1 mois, je sais plus, tout seul en allant entre les rochers où j'allais nager, mais une table où j'écrivais une sorte de réflexion pour essayer de comprendre à la fois quel était mon rapport au cinéma et pourquoi ce rapport au cinéma avait à voir avec l'invisible, la magie, et comment au fond Kenneth Anger me donnait la clé de ça. Et ça a été quelque chose qui m'a, je crois, transformé. Et on parle du début des années 90, encore une fois.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Assayas et Arnaud Robotini. Vous avez tous deux fait preuve d'estivalitude.
Je voulais juste ajouter un petit mot qui n'est pas très estivalitude. Vas-y. Mais aujourd'hui, est inhumé Philippe Sdard au cimetière Montmartre. Voilà, il y a une cérémonie à midi.
C'est bien de penser à effectivement
un petit hommage à ses proches. Voilà.
Olivier Assayas, votre livre Un voyage Marseille-Rio 1941 est paru le 19 juin chez Stock. Votre film Double vie est sorti le 16 janvier. Arnaud Robotini, vous interprétez la musique de 120 battements par minute le 23 juillet dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Et notre attaché de production Saad Merzak me dit que vous serez sur la scène du festival Musilac le 13 juillet. C'est à Aix-les-Bains. C'est vrai? Voilà,
Astropolis vendredi et les Eurocaines dimanche.
Vous n'arrêtez jamais, c'est votre force. Vous pouvez bien entendu réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Réalisation, attention les yeux, Juliette Médevielle. Préparation, Saad Merzak, Rebecca de Nantes, Claire Tesser, Pierre Goulencourt et Astrid Landon. À la technique, Rémi Sistiaga. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter et nous accueillerons demain une danseuse, Marie-Hélène Gillot, et un romancier à succès, c'est Guillaume Musso. Mais attendez, j'avais dit à la sécurité de fermer la porte.
Ça vous reprend encore, mais laissez-moi venir dans votre
studio. Bonjour Laurent Delmas.
Bonjour Christophe.
Bienvenue.
Oui, merci. Je reçois ce matin pour Ciné qui chante Delphine Glaise, la cinéaste qui a sorti mercredi dernier un très beau documentaire qui s'appelle Beau Joueur. Et avec elle, tenez-vous bien, on écoutera Jean Rochefort, entre autres chanter Françoise Hardy, Chaplin, Sylvana Mangano, Arnaud et quelques autres.
Bah, vous êtes brillant comme toujours. À tout à l'heure alors. Merci beaucoup Laurent Delmas.